Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, ainsi qu'à l'équipe technique de Radio Courtoisie, au micro Marc Favre des Chalins. Je reçois aujourd'hui Michel Guéner, avocat, écrivain, historien, essayiste et auteur d'une très belle et dense biographie de Maurice Barrès. Maurice Barrès, le grand écrivain retrouvé. Sont aussi présents dans le studio Dominique Derscherff, ancien ambassadeur de France, président de la Société des lecteurs de Maurice Barrès, écrivain, historien, et Robert Kopp, que nos auditeurs connaissent bien, écrivain, professeur émérite de littérature française à l'Université de Bâle et président de la Société des études françaises de Bâle. Michel Mourlet nous rejoindra par téléphone dans quelques instants. Le thème de l'émission sera Maurice Barrès, la vie, sa vie, son œuvre et sa postérité, la postérité d'un homme libre. Voilà. Comme il est d'usage avant l'entretien, je rappelle les coordonnées de défense de la langue française, son adresse postale 222 avenue de Versailles 75 016 Paris, son numéro de téléphone 01 42 65 08 87, son adresse courriel dlf.paris@club-internet.fr et enfin son site internet qui vient d'être renouvelé www.langue-française-sans-cédille.org. Nos éditeurs qui le désirent peuvent demander une revue de l'association Défense de la langue française afin de connaître un petit peu les actions et les activités de cette association ainsi que d'autres associations. Les adhérents et sympathisants agissent sur le terrain et contre la mauvaise qualité de la langue française, contre les dérives de l'écriture faussement inclusive et les utilisations de néologismes souvent tirés de l'anglais mondialisé, par exemple dire ASAP au lieu de As soon as possible, ConfCall au lieu de conférence téléphonique, et aussi des traits de langage un petit peu abusifs, comme une belle journée au lieu d'une bonne journée, ou profiter mieux, pour donner quelques exemples. On entend ça partout et on lit ça dans tous les courriers électroniques que l'on peut recevoir. La Défense de la langue française engage aussi des actions devant les tribunaux administratifs pour non-application de la loi Toubon, en particulier à l'encontre des administrations et des collectivités publiques qui n'appliquent pas la double traduction. Pour les auditeurs, lorsqu'il y a une traduction dans une langue étrangère, il doit y en avoir une deuxième pour favoriser la diversité linguistique. Il y a également des actions intéressantes de nos administrateurs. Jean-Pierre Collignon, qui est un ancien correcteur du Monde, organise des dictées. Et il suffit d'aller sur son blog. Et également, nous avons une personne qui s'appelle Rachid Santaki, que nous avons reçu, et qui est le créateur de la dictée géante, qui organise dans toute la France des dictées. Et avec un grand succès, des dictées pour tout niveau. Et la prochaine dictée, c'est le 20 mai à Saint-Quentin dans les Hauts-de-France. C'est une dictée en gare, dans la gare, ça s'appelle une dictée en gare, c'est dans la gare de Saint-Quentin, dans les Hauts-de-France, avec l'appui de la SNCF, de France Culture et de la ville de Saint-Quentin. Et donc il suffit d'aller sur le site de la ville de Saint-Quentin. Le 23 mai à Nice, il organise au Centre universitaire méditerranéen une dictée géante à 13h30. Et plus près d'ici, à Quincy sous Sénart, le 24 mai, à la Maison Verte, à 15h, une dictée. Il suffit de s'inscrire, ça permet. Toujours un très grand succès et c'est fait dans un esprit d'ouverture et d'amusement. Donc c'est une grande réussite. Que l'on a vu récemment quand même critiqué sur France Culture, c'est assez drôle, par les linguistes atterrés, qui considèrent que c'est pas la langue assez moderne. Donc c'est assez amusant de voir que France Culture, à Saint-Quentin, dans les Hauts-de-France, soutient cette action. Avant l'entretien avec nos invités, préconise quelques ouvrages à lire de Michel Guéner, naturellement, Le retour à la nation, après la mondialisation. C'est un ouvrage de 2022, je crois.
Exact.
À la Cité, je crois que c'était le.
Aux Presses de la Cité,
ben voilà, qui fait suite au Retour des États, un livre un peu plus ancien chez Grasset. Yeah. Et naturellement, nous parlerons, puisque la base de cet entretien sera la magnifique biographie de Maurice Barrès, Maurice Barrès, le grand écrivain retrouvé, qui est passionnant, puisque ça se lit comme un roman, comme le roman de la vie de Maurice Barrès. On a envie de tourner la page dès que la page s'achève. Donc ça c'est magnifique. Et nous allons, en guise d'introduction, naturellement, écouter le petit enregistrement de Michel Morlaix. Michel Morlaix qui a créé cette émission il y a déjà de nombreuses années.
Bonjour Marc, bonjour à tous. Je suis toujours très heureux de me retrouver à Radio Courtoisie, même à distance, et particulièrement aujourd'hui, puisqu'il s'agit de parler de Barrès, et en outre, de saluer sa nouvelle biographie, celle que vient de publier Michel Guéner, biographie qui fera date, je pense, comme celle de François Brosse en 1987. Dans un recueil de réflexions qui est paru à l'aube du XXe siècle, Rémy de Gourmont a prophétisé « La vie va devenir de plus en plus dure pour les hommes qui ont des nuances dans l'intelligence. » Il pensait sans doute à lui-même. Et pourtant, cette prédiction éclaire vigoureusement, je trouve, la destinée posthume de l'auteur des Déracinés. C'est ce qui ressortait en tout cas de la biographie de François Brosse et, de manière en quelque sorte symphonique, de celle de Michel Guéner. Celle-ci, en effet, raconte l'œuvre liée à la vie de telle façon que chaque livre apporte sa sonorité propre, montrant ainsi à quel point l'homme Barrès est pétri de musiques diverses, à quel point se révèle complexe l'architecture de sa pensée. Et par conséquent, combien apparaît inapproprié, réductrice, l'opinion de ses détracteurs. Sans l'avoir lu, les ennemis de Barrès, qui sont aussi en général très accueillants à toutes les revendications anti-françaises, ces ennemis, donc, ont bricolé au service de leur bien-pensance un épouvantail qui porte son nom et qui a fait oublier l'essentiel. Par la pensée et par la sensibilité et par le style qui leur est consubstantiel, Barrès est l'un de nos plus magnifiques prosateurs. L'épouvantail antisémite, le rossignol des carnages, fantasmé par ses détracteurs, c'est peu de le dire, n'a rien de commun avec l'écrivain admiré de Proust, de Léon Blum, de Malraux, d'Aragon. C'est ce que rappelle, c'est ce que rétablit et ce que démontre Michel Guéner dans son ouvrage monumental « Maurice Barrès, le grand écrivain retrouvé ». Grand écrivain retrouvé, certes, et par un grand avocat.
Merci Michel. Je remercie Michel de cette intervention. Je rappelle aussi que Michel a écrit un papier, un très beau billet dans le dernier numéro de Service littéraire sur cette très belle biographie. Et donc, c'est très intéressant. Je salue aussi François Broche qui ne pourra pas être malheureusement parmi nous. Donc, il salue une salutation barésienne l'ensemble des participants. Et rappelle, comme Michel Mourlet, qu'il ne faut pas ramener ou réduire Maurice Barrès à ses écrits antisémites, nous en parlerons. C'est rare, ces écrits antisémites, et qui sont d'ailleurs très bien indiqués dans le livre, et en indiquant tout le contexte, et sans rien du tout occulter. Donc c'est très intéressant, et rappelle également que Maurice Barrès a écrit, en 1917, voilà, tout un article, c'est un...
Non, c'est un livre, Les diverses voilà. Familles spirituelles de la France.
Dans lequel il y a les Israélites, puisqu'à l'époque on employait, je crois, ce terme israélite et non pas juif.
Dans lequel Barrès a voulu rendre leur honneur à toutes les familles d'opinion et de croyances qui avaient contribué à l'effort de guerre, dont les Israélites, auxquels il consacre un chapitre entier.
Voilà, exactement. Et d'ailleurs, il avait également cité pendant toutes ses chroniques pendant la durée de la guerre, l'importance de cette famille, spirituelle.
La chronique de la Grande Guerre, comme vous le savez, c'est le recueil de l'ensemble des articles que Maurice Barrès signe dans l'Écho de Paris, et il écrit qu'il prépare ce livre, article après article. Et ce livre va être publié, comme vous l'avez indiqué à l'instant, en 1917, en pleine guerre. Et les diverses familles spirituelles de la France font partie d'un livre très important dans la connaissance de la pensée de Barrès. Barrès est unificateur de la pensée française. Il n'en est pas un réducteur.
Voilà, exactement. Donc François Broche avait écrit en 1987 une grande biographie, et il me fait savoir qu'il l'appelle le phénix lorrain. Bon, voilà. Donc, Michel Guéner, Maurice Barrès, c'est un écrivain calomnié, donc, c'est un écrivain oublié, c'est un écrivain daté. C'est l'écrivain qui était reconnu à la fin du 19e jusqu'au bon tiers du 20e, a un peu disparu, j'ose dire, des radars. Et vous indiquez dans votre livre que c'est l'inconnu des bibliothèques du 21e siècle. Il y avait l'inconnu, le film de La Grande Arche, là c'est l'inconnu de la littérature française que l'on peut connaître. Donc, Maurice Barrès, quel était le Maurice Barrès alors, que l'on doit retenir ?
Maurice Barrès, comme vous le savez, chers amis autour de la table, a été d'abord un grand styliste. Très jeune, à 25, 26, 27 ans, il écrit avec une phrase nourrie de coupures, surprenante, que vont reconnaître de grands stylistes à venir, je pense à Marcel Proust, qui disait que dans sa phrase, il y avait des ruptures de ton comme dans la peinture et la musique. Barrès est d'abord et avant tout un grand styliste. Ensuite, grand styliste qui est annoncé avec le deuxième tome de la trilogie Le culte du moi, Un homme libre. Un homme libre est le livre qui lance Maurice Barrès. Et la même année, c'est ça qui est stupéfiant dans la vie, le parcours de Maurice Barrès, il se présente aux élections législatives de Nancy. Il est élu député à 27 ans, en 1889, le plus jeune député de France, rejoignant le combat du général Boulanger parce qu'il exècre la République parlementaire qui n'est faite, construite et alimentée que de scandales à répétition.
C'est alors, l'époque du scandale de Panama, je vous coupe, c'est ça?
C'est juste un peu avant.
Un peu avant.
Et donc, Barrès, dès le départ, c'est deux hommes. Un homme qui écrit et un homme qui s'engage. Ces deux hommes, et on n'aurait jamais dû, pour respecter un parcours aussi riche, en séparer les deux parts, en séparer les deux éléments principaux. Or, Barrès a poursuivi dans l'écriture à proprement parler, et l'homme engagé, durant cette élection législative de 1889, et au-delà, évidemment, quand il est aspiré par l'affaire Dreyfus, eh bien, le discrédit attaché à l'homme engagé a recouvert l'immense crédit que celui-ci avait sur les lettres françaises. Et forcément, dans la réduction facile à laquelle ses contemporains, puis nos contemporains, ont accepté comme legs de la vie de Maurice Barrès, celui-ci a disparu entièrement. D'où l'expression de Pierre Drieu-La Rochelle, Maurice Barrès est marqué d'oubli. Mais ce qui est curieux et qui nous donne espoir pour la redécouverte de Barrès, c'est que au sein même de ses engagements politiques, indépendamment de la force de son écriture, il y a des éléments qui redeviennent de pleine actualité. La nation, l'enracinement. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où l'universalisme prôné par l'égide, Romain Rolland, les adversaires de la guerre sous 14-18, les internationalistes, plutôt socialistes, comme Léon Blum, aujourd'hui devraient reconnaître que le discours de Barrès sur la nation, le discours de Barrès sur l'enracinement, a un écho tellement fort qu'on ne peut pas considérer que, même dans sa partie politique, Barrès est désuet.
Parce que Barrès était très critique sur les socialistes et les radicaux surtout. D'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale...
Il a considéré que ceux-ci avaient campé le parti du pacifisme, de la paix. Il y a eu d'ailleurs des contacts avec les socialistes allemands durant la Grande Guerre et Barrès l'a critiqué. Barrès, en 14, il se souvient de l'humiliation de l'enfant de 1870 où il a vu les soldats français revenir défaits du front de cette guerre qu'on a résumée au désastre de Sedan. Et en 14, il appelle à la mobilisation de l'ensemble de la nation. Et il ne comprend pas qu'il y ait une partie de l'opinion qui fasse défaut. Quand, en août 1914, la Chambre des députés se réunit et d'une seule voix, comme d'un seul homme, appelle à l'union sacrée, il ne peut pas comprendre qu'il y ait des socialistes, et particulièrement l'inventeur de l'impôt sur le revenu, pour imaginer des passerelles de pacifisme avec l'allemand. D'ailleurs, les socialistes allemands se moquent et promènent les socialistes français. Et Barrès n'a pas été tendre avec, effectivement, les faiseurs de lâcheté qui étaient les socialistes, j'ose rajouter, de l'époque. Si je le dis de toujours, ce serait trop polémique.
D'ailleurs, il faut se rappeler que Barrès a vu, petit enfant, à Charmes, défiler les fifres de l'armée prussienne.
C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Et ça l'a profondément marqué. C'est pourquoi, de 1870 à 1914, il a tendu la corde patriote pour que la nation se mobilise à récupérer ou à voir revenir à elle les trois provinces, enfin les trois grands départements qui lui avaient été ravis en 1870, les deux départements de l'Alsace et la Moselle.
Tout en ayant une affinité avec les régions rhénanes.
C'est une des grandes avancées de la pensée barésienne et qui, pour le coup, est assez méconnue. En 1918, il aurait pu se satisfaire de la victoire de la France, mais il a imaginé une fédération rhénane. C'est-à-dire que les deux côtés du Rhin, l'Alsace, et de l'autre côté en Allemagne, il les imaginait s'associant dans une fédération régionale européenne. Il estimait que ce serait une zone tampon protégeant la France d'une future agression germanique ou prussienne. Et quel esprit éclairé a-t-il à ce moment-là ? Parce qu'il écrit dans les cahiers qu'il pressent que l'Allemagne va se préparer à la revanche, qu'il pressent que l'Allemagne aura sans doute sorti des siens un guide qui la remobilisera pour reconquérir la France, il l'écrit, cela. Malheureusement, il meurt trop tôt. Oui. Il n'est pas entendu. Alors que cette fédération rhénane, il suffit aujourd'hui d'aller en Alsace pour le mesurer. J'étais ce week-end en Alsace. Et j'ai parlé avec des Alsaciens qui m'ont confessé que pour eux, l'idée d'une fédération rhénane avait évidemment beaucoup de sens. Car l'Alsace aujourd'hui se revendique collectivité européenne et non pas région française, a établi une passerelle avec l'autre côté du Rhin, parle avec amitié avec l'autre côté du Rhin et a bien compris que l'autre côté du Rhin n'a rien à voir avec la Prusse, l'imaginaire des Grimm, l'imaginaire un peu du dieu Wotan, qui n'a rien à voir avec le génie du Rhin.
D'ailleurs, en 18, 20, jusqu'en 23, il y avait une tentative des Rhénans. Moi, j'ai retrouvé, ça s'appelle la tragédie rhénane de Torten, qui a une tentative d'une création d'une république rhénane,
oui.
Et qui n'a pas été soutenue par les Français, surtout que ça a été très combattu par les Anglais, même par le Vatican, puisque le Vatican avait peur que la république laïque française influe sur les catholiques rhénans. Et donc, on a un petit peu abandonné. C'était le général Mangin qui soutenait, mais Mangin a été écarté. Et je crois que ça s'est arrêté dans un massacre en février 2024, où
exact.
L'ensemble des...
En 1914, Barrès est presque seul parmi les intellectuels dans son combat pour la mobilisation de la nation. Et en 1918, il est presque seul à vouloir dépasser la victoire. Il est presque seul à imaginer autre chose que se satisfaire de la victoire sur l'ennemi. Et on le voit, de 1918, fin de la Grande Guerre, jusqu'à 1939, c'est le pacifisme qui va dominer. Avec évidemment la cécité immense des socialistes, de l'époque, je rajoute, bien évidemment, qui vont laisser se construire une Allemagne forte de l'autre côté du Rhin, et abandonner tout esprit de résistance et de préparation à une future grande guerre du côté de la France.
Merci Michel Yenner. On va laisser parler nos invités. Dominique Derchef, je rappelle qu'il est ancien ambassadeur de France et président de la Société des lecteurs de Maurice Barrès, qui est historien, et Robert Kopp, qui est professeur émérite de littérature française à l'Université de Bâle. Alors, Maurice Barrès pour un Suisse.
Eh bien, Maurice Barrès, pour un Suisse, est un grand écrivain,
de Bâle,
j'adhère.
De Bâle.
Oui.
Le Rhin.
Oui, oui. Ben oui.
Un Rhénan.
Voilà. C'est-à-dire, ce que vous disiez de la Confédération alsacienne, c'est évidemment le vieux rêve de la Lotharingie, entre la France d'un côté et l'Allemagne de l'autre, qui a été réalisé de temps en temps dans l'histoire et qui, ma foi, a été périodiquement enterré. J'adhère entièrement à l'analyse de Michel Guenner. On a essayé de pousser Barrès un peu à la marge, en dehors des programmes scolaires, encore que. Et là, je mettrai presque une note en bas de page. En dépit de ses efforts, Barrès a toujours gardé de très grands lecteurs. Il a toujours été présent, non pas de façon souterraine, mais auprès de très grands lecteurs. Vous citiez Gide. Certes, il s'est séparé de Barrès au moment des Déracinés, mais il a reconnu dans l'appel du soldat un très grand livre.
Ouais.
Vous citiez Aragon, qui n'est pas particulièrement marqué à droite, que je sache, a été un des grands lecteurs de Barrès, et dans Lumière de Stendhal, qui est un livre de sa période la plus stalinienne, puisqu'il a été publié en 1954, il se dit barrésien. il se dit barésien. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit, c'est un des plus grands stylistes. C'est une langue extrêmement riche. Et c'est là qu'on se heurte, puisque nous sommes dans une émission qui veut faire vivre la langue française, à une autre difficulté. Le français de Barrès est un français extrêmement riche, comme celui de Giraudoux. Ce n'est pas le français classique de Racine avec 400 vocables, etc. etc. Si on faisait le dictionnaire ou un lexique de Barrès, on arriverait à 25 000 à 30 000 mots, comme pour Giraudoux, comme pour Huysmans, son contemporain en partie. Et c'est une des difficultés aussi qui se présente au lecteur. Donc il a gardé de très grands lecteurs, et il a gardé son influence, il a gardé son influence bien au-delà de la littérature. Vous rappelez très justement dans votre livre que le général de Gaulle est un grand lecteur de Barrès, ce qui n'a rien à voir avec Maurras, que le président Mitterrand est un grand lecteur de Barrès, ce qui n'a de nouveau rien à voir avec Maurras. Et c'est de cette assimilation aussi que Barrès a souffert. Il a souffert évidemment du nationalisme, il a souffert du procès en antisémitisme, mais vous avez rappelé les diverses familles spirituelles de la France. Il a réuni à la fois les juifs, les protestants et les socialistes pour faire nation. Faire nation, le problème s'est posé au lendemain de la guerre franco-allemande, après la défaite de Sedan, et c'est évidemment le grand sujet de Renan, que Barrès essaie de dépasser, puisque, évidemment, il s'appuie sur Renan, il rend, comme jeune écrivain, visite à Renan, où il raconte une visite à Renan qui est totalement controuvée. il est 8 jours chez Renan, peut-être qu'il a été reçu un quart d'heure, et encore, mais ça montre bien que c'est son point d'appui.
Je montre le livre qui était paru il y a quelques années, France Univers, par d'ailleurs Michel Mourlet. Et donc c'est 8 jours chez Renan. Effectivement, c'est une, disons, c'est une 8 jours un petit peu rêvé.
Oui, c'est un hommage. C'est un hommage un peu paradoxal. Mais il faut se mettre à la place d'un jeune homme. Un jeune homme ne peut pas être dans la révérence. Et il faut qu'il puisse exprimer son admiration de façon éventuellement un peu paradoxal, voire satirique. Et c'est ce qu'on oublie souvent, les écrivains ont besoin de se démarquer par rapport à ses prédécesseurs. C'est le cas de Gide. Barrès prenait toute la place. Gide arrive avec les cahiers d'André Walter, qu'il publie, qu'il tient à publier chez le même éditeur que les livres de Barrès. Donc, il s'inscrit dans son sillage et puis ensuite, il faut qu'il s'émancipe. Quelles que soient les idées de celui par rapport à qui on veut prendre ses distances, de toute façon, il faut bien qu'on essaie de conquérir sa place. D'où Gide, qui est parfois assez sournois, dit oui, Barrès est un très grand écrivain, un écrivain de transition. Il arrive entre la génération Taine, Renan, Flaubert, etc., et puis la suivante, c'est-à-dire moi, et entre les deux, il y a cette demi-génération.
Alors, sur ce point, il faut vraiment faire,
Michel Guéner,
faire une petite photographie. Le rôle de Gide dans l'effacement de Barrès est assez considérable. Parce que Gide ne veut pas simplement bousculer un aîné encombrant, il veut l'effacer. Et quand la NRF sera créée, il prendra tous les jours la mesure de ce qu'il ne faut pas évoquer Maurice Barrès. Et on en a les traces encore aujourd'hui dans la très belle maison Gallimard. Maurice Barrès n'est pas publié dans la Pléiade. Maurice Barrès, alors que tant d'écrivains qui ont pu être rattrapés historiquement par leurs méfaits le sont, je rappelle que Morand, Céline, Drieu-La-Rochelle,
Gobineau,
sont dans la Pléiade et pas Barrès. Donc il y a eu quelque chose qui... Et d'ailleurs, Arago, que vous citez, l'a relevé fort bien. Il était scandalisé de la façon avec laquelle Gide a tout fait pour marginaliser, écraser Barrès, alors que le premier directeur de la NRF, qui n'a pas été André Gide, parce que Gaston Gallimard n'appréciait pas Gide, vous savez, c'est Jean-Yves Tadier qui me l'a confié, Gaston Gallimard n'a jamais invité à déjeuner en Régide. Alors, c'est Rivière qui est le premier directeur de l'ENA et qui dit...
C'était Copeau Rivière, voilà.
Et Rivière dit, Maurice Barrès était le plus grand écrivain qu'on ait connu. Donc, voilà, il y a eu un jeu de Gide qui n'a pas été sain dans le respect de la contribution de Barrès à la littérature française.
C'est une rivalité, c'est une vengeance, c'est une disquinerie.
C'est celui qui veut être seul. Voilà, qui ôte-toi là que je m'y mette. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que Gide, à la NRF, va s'employer à publier des Barrésiens. La première école des grands écrivains de la NRF, elle est barrésienne. Malraux, Monterland, Aragon, j'en passe et d'autres. Drieu-La Rochelle, bien évidemment. Et voilà, c'est pas du tout sur le plan de l'anecdote. Vous comprenez, quand la NRF est lancée, Maurice Barrès écrit dans la revue des Deux Mondes, les deux mondes sont calqués. Voilà. Il y en a un qui est classique, qui va devenir ancien, oublié, qu'on va piétiner, et l'autre qui est moderne, la NRF, qui va accueillir...
Il a réussi à le faire, en fait.
Il a réussi à le faire, splendidement. Mais aujourd'hui, vous savez, je pense que Gide est autant oublié que Barrès.
Oui, il est pas beau. Oui, je pense. Que pense Dominique?
Oui, non, mais j'adhère, bien sûr, tout à fait. Je voudrais, puisque l'heure avance, c'est vrai que souligner dans la vie et la postérité de Barrès l'importance de la Grande Guerre, c'est vrai. Et de ce que vous venez de dire sur la politique allemande. Pourquoi, bon, au-delà de ce que vous venez de dire, pourquoi Barrès a quand même eu un retour en grâce, c'est après 45, justement, avec le général de Gaulle, André Malraux, on pourrait en parler longuement, et même chez Mitterrand. Ce sont des gens qui ont été marqués très fortement par la Grande Guerre, qui ont vu dans la résistance, dans la Seconde Guerre mondiale, mais vu... sont très différentes de la Grande Guerre, mais vu du côté de la résistance, notamment chez Malraux, l'apport de ce que Barrès avait écrit et ce qu'il représentait pour la Grande Guerre. Je voudrais dire, par exemple, on pourrait dire que Malraux, avec ce qu'il a écrit de la résistance et de la réunification des Français jusqu'aux communistes, là. Non, il ne s'agit même plus des socialistes, là. Qui ont redécouvert l'idée de nation, le patriotisme. Tout bien ce qu'on ait pu penser, bien sûr, des luttes internes au sein de la résistance et à la libération entre les communistes et les autres. Mais, c'est pourtant, vous avez mentionné Aragon. Les communistes, il y avait quelque chose là de retour à Barrès à travers l'idée de nation et de la résistance. On pourrait dire que, en quelque sorte, le Barrès de la Grande Guerre, c'est un peu le Malraux de la résistance. Malraux qui se dit donc fils de Barrès, mais fils critique, hein, bon, avec beaucoup de points, mais il s'y réfère constamment jusqu'à la fin de sa vie, il s'est référé à Barrès. Et bien entendu, et ça même avant de rencontrer le général de Gaulle. Oui. Il était barrésien avant. Il a rencontré le général de Gaulle, le général barrésien, comme dit, je crois, Jean-Luc Domnac, Jean-Marie Domnac plutôt. De Gaulle, c'est beaucoup plus que le général Boulanger, le général barrésien.
Oui.
Alors, un autre discrédit, en quelque sorte, que vous avez effleuré derrière l'idée de nationalisme, c'est quand Barrès égale la terre et les morts. Alors, la terre et les morts, évidemment, bon, alors, les morts, ça pouvait...
D'ailleurs, quand on fait une recherche sur ChatGPT, on met Barrès, il y a une citation... Il y a une citation qui apparaît avec son portrait, et c'est sur la terre et les morts.
Oui. Alors, là aussi, il faudrait bien... réfléchir à ce que exactement Barrès disait et écrivait, et pourquoi Il a parlé de ça. Et alors, je pense qu'on pourrait retourner aussi ce discrédit. Bon, les morts, ça, c'est au moment où il y avait beaucoup, par exemple, influencé Mitterrand, le goût des cimetières, tout ça, etc. Bon, là encore, c'est parce que Malraux, d'ailleurs, l'a dit, dans les années 50, il a compris l'importance de Barrès quand il a visité la Lorraine, et que dans chaque famille, il y avait des photos de soldats morts et de la Grande Guerre, bien sûr. Donc il a bien compris de ce que voulaient dire les morts dans ceux qui ont vécu la guerre. Parce que la Première Guerre mondiale, il faut bien constater, vous avez dit qu'après il y avait le pacifisme, mais parce qu'il y a eu une saignée, mais absolument terrible.
900 morts par jour en moyenne.
La France était exsangue. Comment d'ailleurs aurait-il pu même influencer et occuper l'Allemagne à l'époque? En 1945, c'était différent, mais en 1918-19, la France n'était plus capable de faire quoi que ce soit, militairement, j'allais dire, seule en tout cas. Et il n'y avait pas grand monde autour d'elle. Bon. Simplement, donc ça c'est pour les morts. Mais la terre, là il faut dire, bon, Barrès écolo. Il y a un écologisme très important chez Barrès. Quelqu'un a dit, je ne sais plus, qui était le peintre des paysages. Il y a des passages, vous rappelez, sur les paysages barésiens. C'est pas seulement d'ailleurs la Lorraine, c'est pas seulement, bon, il y a aussi le Mont-Saint-Odile pour l'Alsace, mais il y a également, bon, bien sûr, Tolède, etc., l'Orient.
Il y avait la passion des voyages également.
La passion des voyages, mais cette histoire de terre, vous avez parlé d'enracinement, c'est ça. Bon, mais la terre, c'est aussi la protection. Aujourd'hui, bon, la planète Terre, tout ça, etc., l'environnement, tout le monde nous rabâche ceci. Mais il faut dire, il faudrait dire, Barrès, premier défenseur de la nature.
Quand vous dites Malraux, fils spirituel de Barrès, on pourrait ajouter le fils même de Barrès, c'était le premier partisan de Gaulle. Il est allé à Londres dès
Absolument.
Le mois de juin 40. C'est le premier biographe du général.
Son petit-fils a été dans les parachutistes de la France libre.
Absolument. Et il est mort dans la guerre d'Algérie. Et le fils de Barrès est le premier biographe du général de Gaulle, biographie publiée aux États-Unis en 1941 pour essayer d'expliquer ou de faire avaler, selon le point de vue, le général de Gaulle aux Américains qui ne l'aimaient pas.
Ce que vous avez dit, je voudrais juste revenir sur ce que vous venez de dire sur l'écologisme de Barrès. C'est très, très, très juste. Barrès était opposé à ceux qui se disaient universalistes, déjà les pré-mondialistes, considérés à travers l'internationalisme, Jaurès, Léon Blum, qu'il y aurait quelque chose par-delà les nations. Lui était sceptique. Et c'est pourquoi, dès le lycée, il s'oppose à son professeur de philosophie, Auguste Burdeau, qui est un kantien.
Oui.
Et on sait que le kantisme, c'est la préparation d'une philosophie universelle qui écrase ou relativise considérablement les identités particulières, les identités nationales. Et aujourd'hui, vous avez fait référence, je vous en remercie, à mon essai « Le retour à la nation », on vit dans un monde de dépassement du cycle du monde global et de la mondialisation. Et comment, dans ce moment historique que nous vivons aujourd'hui. Ne pas penser à Barrès.
Il faut relire Barrès et lire votre biographie.
Je crois que Barrès est d'une lecture utile dans la crise moderne. Et je pense d'ailleurs, dans la perspective de l'élection présidentielle qui se dessine, qu'il peut être un fondement d'une reconquête, notamment pour un camp politique, la droite, de valeurs, dans lesquels se reconnaîtront les Français, plutôt que de faire du programme de réforme à perte de vue. Les Français ont besoin de repères, les Français ont besoin de retrouver leur marque, et peu d'écrivains ont été aussi utiles à une telle démarche que Maurice Barrès.
Merci Michel Guéner. Nous allons écouter une petite réclame pour Radio Courtoisie, et après on passera un morceau de la chanson d'Yves Duteil, sur Dreyfus, un camarade, de parler de ce moment.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Je suis un peu ton fils, et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île en Guyane. Et je souffre avec toi les fers que l'on t'a mis pour écraser ton âme et pour briser ta vie. Mais pourquoi fallait-il, pour t'envoyer au diable, te prendre dans les fils de ce piège effroyable? J'ai vu souvent mon père s'assombrir tout à coup quand j'évoquais l'affaire, comme on disait chez nous. Et j'ai vécu longtemps sans rompre ce silence, comme un secret pesant parfois sur la conscience. J'imaginais comment des hommes étaient capables d'arrêter l'innocent pour en faire un coupable. Il était alsacien, français, juif, capitaine, vivait parmi les siens à Paris, 17e.
Voilà, c'est la chanson de Yves Duteil, qui est un descendant de Dreyfus, d'ailleurs. Et donc, c'est pour parler, évidemment, de l'affaire. C'est difficile de parler de Maurice Barrès sans parler de l'affaire, puisque lorsqu'on entend en 2026 Maurice Barrès, on tout de suite arrive l'anti-dreyfusisme pour expliquer le pourquoi du comment et quelle est sa position.
Pour aller dans votre sens, toutes les critiques que j'ai eues dans la presse, j'en ai eu pas mal, commencent toutes par le rappel de l'affaire Dreyfus. Alors, rappelons les faits et le contexte très, très rigoureusement. Au début, Barrès apprend, suit l'actualité sur la poursuite de la culpabilité du capitaine Dreyfus.
Pour situer la période, je crois que Dreyfus a été condamné en 1894,
absolument,
et qu'il a été rétabli ou acquitté en 1906, donc c'est une période de 10 ans à peu près.
Absolument, mais là j'étais avant 1894, car Barrès hésite. Il ne prend pas parti tout de suite. Je rappelle que d'autres...
Il est ami de Blum.
Alors, Blum est un de ses élèves. Ami de Blum, c'est un peu exagéré. Mais en tout cas...
Ils ont de l'estime.
Ils vont justement
Léon Blum...
Se séparer, sûr.
Léon Blum aime beaucoup Barrès. Mais Barrès est d'abord un homme, dans toutes ses prises de position et dans sa création, un homme assez seul. Il lisait peu ses contemporains. Il se construisait par lui-même, d'où le parcours complexe, difficile et peut-être difficilement déchiffrable pour beaucoup. Bref, Barrès hésite. D'autres n'hésitent pas. fonce tout de suite. Je rappelle que Clémenceau, à la tribune de la Chambre des députés, demande la mise à mort du capitaine Dreyfus.
Comme Jaurès.
Alors Jaurès ne demande pas ça, mais Jaurès est contre le capitaine Dreyfus. Je rappelle d'ailleurs que Jaurès a écrit des mots sur les Juifs totalement incendiaires, d'un antisémitisme assez effroyable. Barrès hésite. Un jour reçoit la visite de Léon Blum. Effectivement, Léon Blum, jeune admirateur. Et Léon Blum se dit, puisque nous l'avons suivi, il va bien nous suivre ce jour-là.
Mais vous le dites bien dans votre ouvrage.
Et donc, il vient le voir. Alors, non pas pour qu'il défende Dreyfus, mais pour qu'il soutienne Émile Zola, qui est en difficulté après avoir publié sa position sur l'affaire Dreyfus. Barrès raccompagne Léon Blum et lui dit « Je vais réfléchir ». Puis Barrès lui écrit une lettre en lui disant « Je ne peux pas prendre position en faveur d'Émile Zola. C'est contraire à mes convictions. Et sa position profonde est très simple, il va suivre une logique politique. La défense de l'ordre et de l'armée contre le mépris de la présomption d'innocence, de la justice et de la vertu d'un homme. Ses parents approuvent sa position. Ses plus proches approuvent sa position. Il s'agit, comme Goethe l'avait vécu dans son temps, de peser sur les deux plateaux de la balance l'ordre par rapport à la justice. Alors il prend la position de l'ordre, de l'armée. Je rappelle d'ailleurs que la justice qui accuse et condamne Dreyfus, c'est la justice militaire, ce n'est pas la justice civile ou de droit commun. Mais voilà, il prend cette position. Et, très franchement, Barrès reconnaîtra plus tard, il le confessera à Lyoté, qu'il avait été criminel de prendre cette position.
Il a eu quelques propos...
Il l'a écrit. Et il ne l'a pas aimé. On va peut-être évoquer tout à l'heure le côté mystérieux de Barrès à travers sa relation avec Anna de Noailles. Il est évidemment clair que Barrès n'était pas d'un bloc, c'était pas Drummond, ça n'a rien à voir. Je suis allé avec mon épouse voir l'exposition sur le capitaine Dreyfus au mémorial de la Shoah et j'étais très choqué que dans un petit meuble en verre étaient imprimées deux phrases, une de Drummond, une de Barrès, illustrant l'anti-dreyfusisme de l'époque. J'ai écrit au mémorial de la Shoah pour leur indiquer que cette présentation était fausse historiquement, alors que l'exposition était magnifique. Ils ne m'ont pas répondu.
C'est sûr, parce qu'ils prennent la phrase, d'ailleurs, que vous citez dans votre livre, page 135, que Dreyfus, et c'était du Barrès, que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race.
Donc, ça passe. Il l'écrit à Rennes, qu'il aime écrire. Qui n'a pas...
Ce qui est impardonnable, en fait, vis-à-vis de...
L'antisémitisme de Barrès appartient et se résume à une affaire. Avoir retenu... Alors, évidemment, l'affaire Dreyfus, ce n'est pas une affaire comme une autre. C'est une affaire qui a stigmatisé et qui aujourd'hui reste comme le levain qui fait que dans chaque crise majeure de l'opinion française, il y a deux camps. On pourrait même citer aujourd'hui que certaines enquêtes sur l'audiovisuel public, certaines décisions sur la gestion de maisons d'édition prestigieuses françaises reproduisent les deux camps. Comme il y a eu après l'affaire Dreyfus, 1936, 1945, etc. Barrès s'est pris les pieds dans le tapis, si j'ose dire, dans l'affaire Dreyfus, mais au fond de lui-même, il n'avait pas, la haine inscrite à l'égard des Juifs, comme d'autres l'avaient eu. Ça ne l'intéressait pas. Il avait une passion de l'ordre, de l'armée et de la nation qui seule la conduite durant cette période, évidemment, extrêmement regrettable.
Je crois que vous avez raison de citer le mot de Goethe. Je préfère une injustice à un désordre. Je pense que c'est cela qui résume un peu.
Le contraire de Camus, en fait.
Oui, tout à fait.
Camus
tout
c'est le contraire. Je préfère la justice. Oui, ma mère.
Ma mère.
Voilà. Mais la justice. Vous avez évoqué la situation de la Troisième République, secouée par le scandale du Panama, le scandale de la Société Générale, le scandale des décorations. Oh, c'est-à-dire, c'est une République totalement discréditée. Les parlementaires sont discrédités. Suivez mon regard. Que reste-t-il comme valeur à laquelle on peut éventuellement s'accrocher? C'est l'armée. C'est la dernière institution. L'Église n'est pas discréditée, mais enfin, ne fait pas l'unanimité, loin de là. On n'est pas loin non plus de l'affaire des congrégations, de la séparation de l'Église et de l'État. On n'est pas dans une république neutre, on est dans une république anticléricale. Donc, l'Église est attaquée. Alors, que reste-t-il? Il reste l'armée. Il reste à laquelle on se raccroche comme à un corps solide, à un corps...
Dans l'optique de la revanche. Dans
l'optique évidemment.
De récupérer les provinces perdues, évidemment.
Toujours. C'est ça, c'est... Et d'ailleurs, durant la Grande Guerre, dans sa fameuse chronique, là, dans les articles de l'Écho de Paris, Barrès loue les généraux français. Il aura une grande amitié avec Foch, avec Joffre. Il sera aux côtés de Pétain à la cathédrale de Metz en novembre 1918, parce que Pétain a joué son rôle durant la Première Guerre mondiale, qui n'a rien à voir avec le rôle qu'il a pu jouer durant...
Non, c'est le sauveur de Verdun.
Durant la guerre suivante, c'est le sauveur de Berlin, de Verdun. Et il est évident que Barrès suit cette logique que vous rappelez fort justement. Et quand on juge de son positionnement sur l'affaire Dreyfus, on doit le rappeler. Ou alors, on a une vision partiale et partielle de l'événement qui est incorrecte.
Et puis, les anti-Dreyfusards, ce n'étaient pas quelques égarés. Renoir, le peintre, est anti-Dreyfusard. Degas est anti-Dreyfusard.
Jules Verne.
Jules Verne est anti-Dreyfusard. Proust hésite.
Alors, il y a la fameuse caricature. Ils en ont parlé.
Oui.
Où on voit.
Ils décident de ne pas en parler, ils en ont parlé. Toute la vaisselle y passe.
Exactement.
Ça ne nous arrivera pas aujourd'hui.
Non. Là, on en a parlé. On va, pour terminer, parce que l'émission va se terminer dans quelques minutes, son amour fou pour Anna de Noailles, et tout de même, c'était.
J'aimerais en parler parce que le Barrès que nous aimons.
Michel Guéner.
Le Barrès que, je l'espère, nous allons relire. N'était pas fait d'un bloc.
Et on peut le relire dans la collection Bouquin.
N'était pas fait d'un bloc. L'homme qui aimait le combat de la nation, qui s'est battu pour la défense de l'armée, il se trouve qu'il a poursuivi durant toute sa vie un amour assez invraisemblable pour une fille d'ailleurs elle-même assez invraisemblable, Anna de Noailles. Et quand on parlait tout à l'heure de Gaulle, je voudrais dire que De Gaulle avait aussi beaucoup aimé en Barrès cette fragilité sentimentale, cette mélancolie qui l'assaillait souvent. Car De Gaulle, de la même manière, n'était pas fait d'un bloc. De Gaulle, on le sait, dans son parcours, a eu des moments très difficiles, où il s'effondrait parfois moralement, et il avait aimé en Barrès voir le miroir d'une mélancolie qu'il pouvait connaître lui-même. Barrès, à travers l'amour qu'il a porté à Anna de Noailles, se révèle un homme presque comme tout le monde, capable, dans l'élan d'un amour, de perdre pied, mais de se révéler alors ce que peu d'écrivains ont pu révéler, que j'ai lu grâce à l'immense échange de lettres et de correspondances entre Anna Noailles et Maurice Barrès, un écrivain qui est totalement enseveli, dicté et nourri par l'amour. Alors, là, il est exceptionnel encore. Je ne connais pas André Gide de grand amour. sauf à imaginer des examens coloniaux dissipés. Je ne connais pas à Marcel Proust de Grand Amour. Et je ne connais pas à X ou Y, autre grand écrivain de Grand Amour. Il a eu ce grand amour. Un grand amour chez un grand écrivain, c'est l'accomplissement d'un grand destin.
Merci Michel Gainer. La mission se termine. Donc je rappelle aux auditeurs et aux spectateurs la magnifique biographie Maurice Barrès, le grand écrivain retrouvé. Et vous allez retrouver dans cette biographie ces pages, en particulier sur Anna Noailles. Et on a envie de, à chaque fois qu'on termine une page, d'en ouvrir une autre. Au 15 juin, et nous allons sans doute parler de chansons françaises et de l'Eurovision le 15 juin.
Vous venez d'entendre « Français, mon beau souci » de Marc Favre d'Échalens, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 18 mai 2026 de 10h à 11h et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.